On ne nous en voulait pas avec Jacques, on a toutes les caractéristiques d'un vieux couple. Hein. Donc, et nous avons donc au moins un enfant commun, ce dictionnaire et quelques autres, plus ou moins avouables. Et pour répondre à tes questions, peut-être deux ou trois ou quatre éléments. D'abord, quelque chose qui, moi, m'est cher, c'est que dans ce dictionnaire, on poursuivait aussi avec Jacques, je crois, l'idée que qui n'est pas une idée couramment admise et qui va peut-être vous paraître un peu abstraite, renvoyant un peu à une épistémologie générale des sciences sociales, mais nous poursuivons l'idée que les concepts priment la théorie. Ou que plus exactement, il y a quelque chose qui est vraiment très agaçant dans les sciences sociales, c'est les théories sans concept, c'est-à-dire des théories qui deviennent simplement des sortes de métadiscours un peu vides, prétendant avoir une portée générale, mais souvent, en fait, n'ayant qu'une certaine vacuité ou une certaine vanité. Parce que, alors, moi, je le dis très clairement, Jacques le dira peut-être autrement, mais si je devais être deleuzien, je le serais au moins sur ça. Je pense que Deleuze a raison dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» dit la philosophie, ça sert à produire des concepts. Et pour moi, la géographie, c'est la continuation de la philosophie par d'autres moyens. Donc je pense que les sciences sociales doivent produire des concepts qui tentent de rendre intelligibles des réalités sociales qui, sans ces concepts, le sont moins. Donc faire un dictionnaire, ça n'est pas simplement quelque chose qui renvoie à une sorte de maniaquerie lexicale ou simplement de goût des mots pour soi. Ce goût des mots, nous pouvons l'avoir. C'est aussi parce que je crois que quand on veut faire des sciences sociales, il y a un moment ou un autre où on doit s'expliquer avec les concepts qu'on utilise et on doit avoir l'honnêteté de préciser le sens des concepts qu'on utilise et surtout de bien montrer qu'on ne variera pas dans l'utilisation d'un concept en fonction d'un sens défini. Parce que Jacques et moi étions horripilés par la capacité des géographes et de beaucoup de spécialistes de sciences sociales à avoir en fait une grande fragilité dans l'utilisation de leur vocabulaire, c'est-à-dire d'utiliser des mots qui n'avaient pas toujours le même sens dans différentes parties d'un même texte. Et ce qui différencie pour moi les sciences sociales du langage ordinaire, c'est bien sûr le fait que les sciences sociales peuvent créer du néologisme. Je suis toujours assez agacé quand on reproche à des chercheurs de sciences sociales de ne pas être clairs. Ou d'être jargonnant, ou d'être difficile. Si vous avez déjà entendu quelqu'un parler de physique quantique, en général, il y va assez rudement dans la difficulté, et personne ne saurait lui reprocher. Je ne vois pas de quel droit, quel serait le décret qui ferait que les sciences sociales devraient utiliser le vocabulaire du café du commerce pour être pertinentes et véritables. Ça peut arriver, mais ça n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Donc je pense que les sciences sociales, elles peuvent créer du néologisme. Et surtout, quand elles utilisent des mots du vocabulaire courant, du langage naturel, elles doivent, par rapport au langage naturel, avoir une grande intégrité dans les définitions du sens et dans la syntaxe, hein, c'est-à-dire dans l'utilisation à la fois d'une sémantique et d'une syntaxe relativement stable. Et tu y as fait référence tout à l'heure, Jean-Marc, en disant qu'il y avait quand même des articles qui se répondaient. En fait, Jacques et moi avons écrit plus de 250 articles à nous deux sur les 680 les plus importants et qui se lient entre eux et qui constituent un corpus théorique lié à une syntaxe conceptuelle stable. Hein, c'est-à-dire qu'il y a et de la sémantique et de la syntaxe dans ce dictionnaire, ce qui ne paraît pas évident au départ, parce qu'on peut avoir l'impression qu'un dictionnaire, c'est uniquement quelque chose de sémantique, mais on a essayé de faire les deux. Donc ça, c'est un premier élément de précision générale. Ce qui fait qu'effectivement, là, vous avez des mots que nous n'utilisons pas dans le sens courant, hein, mais nous l'assumons. C'est-à-dire que nous assumons le fait que ces mots, nous voulons les utiliser dans une perspective différente. Et on pourra en donner des exemples nombreux si on veut y revenir tout à l'heure. La deuxième chose qui nous a guidés, c'est que ce corpus conceptuel qui permet de constituer une théorie devait ensuite pouvoir être exploitable par nous et par d'autres pour lancer de nouveaux travaux. Et si je puis dire, pour nous deux, je crois, une des preuves de notre réussite, entre guillemets, je ne parle pas tellement en termes de nombre de volumes distribués, on y reviendra, mais pour un point que je préciserai par la suite, mais du fait que ce dictionnaire a été discuté, reçu, débattu, s'est imposé aussi comme un objet scientifique en propre qui a imposé des discussions. Un des éléments de réussite, c'est que nous avons pu séparément, depuis, lancer des recherches, écrire de très nombreux très bons livres, il faut le dire, dont quelques-uns sont ici, à partir de ce capital d'expérience, et nous retrouver 10 ans après pour faire la deuxième édition, en ayant tous les deux beaucoup travaillé séparément, et 10 ans après, tout en augmentant ce dictionnaire et en éliminant quelques articles qui ne nous paraissaient plus aussi utiles qu'en 2003, nous retrouver très à l'aise dans ce que nous avions construit presque en fait 13 à 14 ans auparavant, puisque le dictionnaire paraît en 2003, mais son élaboration commence dans les années 98 pour aller jusqu'en 2002. Et je trouve que ça a été aussi pour nous un élément de preuve de la pertinence d'un certain nombre de choses que nous avancions dans le débat, évidemment, puisque nous ne demandons pas mieux que d'être réfutés. Troisième élément de réponse. Une de nos plus grandes surprises, enfin moi, une de mes plus grandes surprises, mais je crois que Jacques, c'est aussi une de tes surprises, c'est de voir que ce dictionnaire a été lu et commenté par des géographes. Ça, c'était un peu fait pour, mais j'allais dire aussi et peut-être même surtout par des non-géographes. C'est-à-dire c'est l'importance qu'a pris ce dictionnaire dans les sciences sociales et c'est une manière pour moi de te répondre. Je pense que ce dictionnaire est un indice de plus, probant, sa réception est un indice du fait que depuis maintenant une petite vingtaine d'années, les sciences sociales se sont intéressées, réintéressées, alors là ça dépend si on est optimiste ou pas, en tout cas les sciences sociales se sont penchées à nouveau sur la question de la dimension spatiale de la vie en société. Et ont commencé à vouloir considérer que les réalités spatiales étaient dignes d'intérêt et que l'espace pouvait être une donnée explicative de l'organisation de la société, de la dynamique des sociétés et des pratiques individuelles. Et on a pu voir comme ça des philosophes comme Patrick Savidan, par exemple, qui, à la demande des presses universitaires de France, réalisait un dictionnaire des sciences humaines, venir nous trouver pour nous demander des articles dans ce dictionnaire sur l'espace en disant « mais on n'avait absolument pas pensé faire des articles à entrée spatiale dans le dictionnaire, mais en lisant le vôtre, on s'est aperçu à quel point c'était relativement crucial aujourd'hui que d'y venir ». Et je pense que depuis 2003, ce mouvement s'est accentué. Moi, je suis extrêmement frappé de cela. En tant que géographe, je suis invité dans beaucoup d'endroits et dans 6 cas sur 10, je suis invité en dehors de la géographie par des anthropologues, des philosophes, alors plutôt de la philosophie sociale et politique, mais avec d'ailleurs des Bordelais, hein, des gens comme Guillaume Leblanc, Fabien de Brugère, qu'on connaît bien à Bordeaux, qui sont d'assez gros consommateurs aujourd'hui des travaux de géographes, par des ethnologues, par des sociologues, par des spécialistes de sens littéraire, par des architectes, des urbanistes. Et j'y vois la preuve aussi d'une sorte de déprovincialisation de la géographie, c'est-à-dire le fait que la géographie aujourd'hui peut poser des questions aux autres sciences sociales et surtout peut apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Donc voilà quelques éléments qui me paraissent quand même aller dans le fil de tes premières remarques. Jacques.
Pour historiciser un peu plus le propos, quand Jean-Marc, tu présentais la conjoncture au moment où on a eu l'idée de faire le dictionnaire. En fait, tu as un peu peut-être compacté une temporalité un peu plus longue. C'est-à-dire que ça, je dirais que ce que tu disais comme point de départ, c'était plutôt, moi, mon point de départ en 1975, quand j'étais étudiant.
Rebelle.
Voilà, où là, effectivement, avec mon ami Christian Grataloup, quand on était en licence de géographie, on avait on avait été élève en prépa avant, donc on ne savait pas très bien ce que c'était que la géographie comme discipline de recherche. Et quand on est allé à l'université et qu'on a vu ce que c'était la géographie, on s'est regardé et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas grand-chose à en tirer de cette chose-là. Et donc on s'est demandé si on restait ou si on partait, si on allait faire de la sociologie, de la science politique, de l'histoire, qui était un peu plus sérieuse d'après nous et intéressante. Et finalement, par paresse, on est resté en géographie. Par paresse et par sadisme, un mélange de ces deux sentiments, parce que l'idée de faire un peu du chamboule-tout avec la géographie, ça nous a amusé. On se disait que ça serait facile parce que c'était facile d'être plus cultivé, plus ouvert, plus théoricien que la moyenne de nos collègues géographes. Donc, c'est vrai que au moment où on décide de faire un dictionnaire, ça suppose quand même que on croit que c'est possible. Et bon, il y avait une part de pari. Je vais y revenir un tout petit peu après, mais Michel et moi, nous considérions que c'était possible parce que il y avait eu tout un travail de la part des géographes. Hein. Justement, on n'était pas du tout des personnes isolées. On était peut-être un peu plus rebelles que la moyenne, mais on sentait tout un mouvement qui, d'ailleurs, vient de loin, hein, en fait, vient quand même des années 50 dans le monde anglophone et en Suède. Hein, donc il ne faut pas du tout surestimer notre propre parcours, même si au départ c'était plutôt un passage entre une géographie très littéraire, disons heideggerienne du pauvre, et vers une géographie positiviste, très technicienne. Donc là, il y a eu une première révolution qui est arrivée en Europe continentale au début des années 70. Mais quand même, enfin, même si on peut critiquer le paradigme qui était à ce moment-là dominant, il y a eu quand même du mouvement, il y a eu de la contestation. Donc on était dans un contexte où la géographie, y compris française, avait beaucoup changé. On voyait aussi qu'il y avait plusieurs types de démarches qui pouvaient se rencontrer. Par exemple, une chose qui nous avait frappé avant qu'on fasse le dictionnaire, c'était de voir qu'il y avait des gens qui venaient de la géographie physique, qui étaient en train de construire un concept de nature intégré aux sciences sociales. Et c'est d'ailleurs particulièrement net dans la géographie francophone, hein, il me semble, mais bon, ça existe aussi ailleurs. Et donc, voilà, c'était des gens qui n'étaient pas du tout de notre univers de départ et avec lesquels on s'est très facilement entendu. Hein. Donc voilà, il ne faut pas du tout présenter ça comme une épopée de quelques héros maudits et rejetés par tous. Donc on pensait que c'était possible. Là où il y avait une part de pari, c'est que on n'était pas tout à fait sûr de l'intégration, du niveau d'intégration qui était possible, jusqu'à quel point l'ensemble de la discipline était mobilisable pour participer à ce travail. On avait déjà décidé, donc Michel a très bien résumé notre démarche, qu'on voulait faire un réseau de concepts aussi cohérents que possible. Donc on ne voulait pas négocier la cohérence avec la pertinence, c'est-à-dire on ne voulait pas que ça soit moins cohérent formellement pour attraper des choses qui auraient été dans l'air du temps. Ça, c'était exclu, ce qui voulait dire que nous rédigions forcément pas mal d'articles, ce qui est un peu inhabituel dans un dictionnaire hein, universitaire. Mais nous voulions inversement, enfin, en complément, faire participer le maximum de personnes, y compris des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, surtout loin s'en faut. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait un pluralisme structuré par les fils conducteurs que nous proposions, mais un vrai pluralisme quand même. Et il y avait quand même 102 auteurs, je crois, dans la première édition. Il y en a plus de 130, hein, c'est ça, Donc c'était là le pari, c'était est-ce que ça allait marcher? Au début, nous pensions que la soupape consistant à avoir des articles contradictoires entre eux, c'était une assurance minimale pour qu'il n'y ait pas de violence entre les auteurs ou de gens qui claqueraient la porte. Et en fait, personne n'a claqué la porte. Et la rédaction elle-même du dictionnaire, donc dans ces conditions, nous a donné une information, en fait. C'est-à-dire qu'elle nous a permis de voir que la cohérence interne de la géographie francophone, enfin quand je dis francophone, il y a aussi quelques non-francophones, hein, qui, quand même un nombre non négligeable, hein, plus d'une vingtaine, hein, mais bon, structuré par la géographie francophone, donc disposé spontanément d'une cohérence assez significative. Et ensuite, quand on a fait la deuxième édition, finalement, c'est un élément qui nous a encore plus frappé parce que pendant ce temps-là, le monde des sciences de l'espace social avait bougé. Il y a eu une mondialisation beaucoup plus forte de la géographie. Nous-mêmes, on connaît beaucoup mieux la géographie d'autres pays, et notamment anglophones, qu'on la connaissait à ce moment-là. Et du coup, la géographie francophone telle que nous la présentons dans le dictionnaire apparaît presque comme une école de pensée informelle, mais qui a quand même une singularité d'autant plus forte. Hein. Donc ça, c'est une des choses qui... Donc si on continue l'historique jusqu'à aujourd'hui, donc les éléments nouveaux... propre dictionnaire, donc c'est un succès quand même assez intéressant, d'autant plus que on avait essayé de faire le plus imbitable possible. Excusez-moi pour le mot grossier. C'est-à-dire que nous ne nous étions pas censurés pour être pédagogique, parce que si vous regardez le marché des dictionnaires, en fait il y a beaucoup de dictionnaires, notamment de disciplines qui sont enseignées dans l'enseignement secondaire comme la géographie, qui sont orientées vers le marché justement du secondaire, donc pour être compréhensible par les élèves, mais encore plus difficile par les profs qui sont des historiens. Donc, qui justement sont les premiers à dire, mais vous jargonnez, comme si toute science sociale devait s'exprimer avec un vocabulaire presque similaire à celui du langage courant. Donc, Michel a dit des choses là-dessus. Donc, on a essayé d'être compréhensif, mais sans concession. Et donc, c'était d'autant plus intéressant de voir que. Je pense que les gens qui l'ont acheté se sont dit la cohérence a une valeur, même si c'est pas facile d'accès. J'y gagne parce que je perçois que tout fait système, hein, ce que Michel a dit. Et donc ça, je pense que ça a été la force éditoriale, hein, donc malgré les inconvénients de lisibilité. Donc du coup, on a eu un problème assez rapidement. Alors, Michel disait que ça a intéressé en dehors de la géographie, mais en géographie, on a eu un problème qui est d'être une espèce de classique, c'est-à-dire un passage obligé dans les bibliographies. Et ça, c'est très dangereux, hein, parce que ça fige, ça empêche la dynamique. Parce que, Quand Michel a dit c'est stable, il ne voulait pas dire que c'est fixe. Justement, la pensée continue. Donc si un dictionnaire devient le littré, quelque chose du XVIIe siècle, mais qui est toujours intéressant à lire, dans le travail scientifique, c'est quand même un peu préoccupant. Donc c'est aussi pour ça qu'on a saisi l'occasion de la deuxième édition pour... en partie nous subvertir nous-mêmes. Alors on aurait aimé qu'il y ait une plus grande visibilité de ce qui restait, de ce qui changeait. On ne désespère pas de faire une édition internet où les choses seront présentes, mais Michel avait eu l'idée que la version 2003 soit disponible pour que tout le monde puisse voir les différences. Donc l'idée qu'on essaye de gérer cette tension entre un dictionnaire qui est quelque chose de très rigide par construction et la dynamique du mouvement des idées. Donc voilà la fin de l'histoire. Et le dernier élément donc, serait la confrontation qui va venir, enfin, qu'on a essayé de penser un peu dans la préface, dans la nouvelle préface, mais quelle singularité, justement, de ce dictionnaire dans la conjoncture d'aujourd'hui, de la géographie et des sciences sociales. Donc, c'est là l'idée que les sciences sociales francophones apparaissent. Donc, j'ai dit la géographie, mais on peut peut-être élargir. En tout cas, une partie des sciences sociales francophones apparaissent comme presque une école de pensée face à ce qu'on pourrait appeler un néostructuralisme très, très puissant en Amérique du Nord, hein, qui est, par certains côtés, assez étrange. Pour moi, quand je vois « Feminist Studies » ou « Black Studies », ça me fait penser à un article de la pensée de la revue intellectuelle du Parti communiste dans les années 50 sur la géomorphologie bourgeoise et la géomorphologie prolétarienne. Hein, donc, c'est vrai que le marxisme, merci McCarthy, a eu relativement peu d'impact aux États-Unis dans l'après-guerre. Alors que les sciences sociales continentales, notamment françaises, ont expérimenté les avantages et les inconvénients d'avoir une méga-théorie qui était à la fois cognitive et politique, enfin qui avait ces deux prétentions. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu la même expérience, mais c'est quand même, je trouve, assez frappant que dans un monde intellectuel mondialisé où tout circule très vite, il y a quand même une géographie des continents épistémiques, hein, qui peut-être qu'elle va finir par s'effriter, mais je dirais que pour le moment c'est pas le cas, qu'on a presque eu des évolutions contradictoires. On voit bien que par exemple dans l'urbanisme enfin, notre géographie a été très influencée justement par les urbanistes qui nous ont aidés à faire la critique du mouvement moderne, qui nous ont aidés à construire la notion d'espace public, alors que je dirais que la tendance dominante dans la géographie et la sociologie urbaine aux États-Unis, c'est plutôt de ne pas voir la Renaissance urbaine, de la considérer comme une expression du néolibéralisme, du capitalisme le plus effréné, de la revanche, comme disait Neil Smith. Et donc quelqu'un comme Richard Florida, qui, entre autres choses, a complètement intégré justement ce renouveau de l'urbanisme, est une espèce de paria, tout en étant très connu par ailleurs, ayant sa légitimité, est une espèce de paria dans le monde dominant, dans le mainstream de la géographie, de la sociologie urbaine. Donc voilà, c'est aussi ce genre d'objet comme un dictionnaire nous permet de voir plus clairement ce genre de choses.
Alors, juste pour jouer avec les nouveaux mots. Donc effectivement, comme la liste n'est pas disponible, moi j'ai dû relire en entier les deux éditions. Et donc j'ai trouvé quelques nouveaux mots. Alors, je vous propose d'en expliciter chacun un. Michel, je te laisse le choix entre vitesse et vulnérabilité.
Oh, ben, les deux. Je peux prendre les deux. En plus, c'est moi qui les ai écrits tous les deux. Donc, on a effectivement... Bon, ça n'est pas très simple de parler d'un livre comme d'un dictionnaire, hein, parce que c'est un peu comme parler du bottin, si vous voulez. C'est pas forcément sexy tout de suite, hein, donc c'est
pour ça qu'on se concentre.
C'est un peu austère, etc. C'est plus facile pour nous de parler de livres plus centrés sur un certain nombre de problématiques précises. Mais ce qu'on a essayé, on a donc assez longuement hésité, Jacques et moi, avant de nous lancer dans une deuxième édition. En fait, on n'était pas spontanément enclin à le faire parce qu'on avait notre propre travail et qu'on considérait que ça, cette version 2003, c'était une base à partir de laquelle on avait progressé, que ce n'était peut-être pas la peine de remettre le couvert. Et puis l'éditeur a insisté, donc on ne peut pas refuser quelque chose à un éditeur, surtout si on veut éditer. On s'est dit, on va le refaire. Mais alors il faut vraiment qu'on joue le jeu d'enlever des choses qui nous paraissent plus aujourd'hui pertinentes. Et alors c'est très intéressant, hein. Jean-Marc l'a dit, il y a quatre rubriques. Et en 2003, quand on avait publié la première édition, on avait mis beaucoup l'accent sur des définitions assez courtes qui renvoyaient à ce qu'on considérait comme une culture générale des sciences sociales, hein. En reprécisant que ce dictionnaire n'est pas un dictionnaire de vulgarisation, c'est pas un dictionnaire pédagogique. On l'a vraiment conçu comme une machine à penser l'espace des sociétés, donc en jouant le jeu des concepts difficiles et définis difficilement. Donc il y avait toute une série de concepts des sciences sociales, de la philosophie en particulier, qui nous paraissaient vraiment importants et pas connus des géographes, pas assez connus des sciences de l'espace. Et on s'est aperçu 10 ans plus tard que ces concepts-là, on n'avait plus besoin de les mettre. C'est aussi intéressant en soi parce que, par le fait qu'on est tous les deux dans de très nombreux jurys de thèse, qu'on lit beaucoup de choses qui sortent dans les sciences sociales et en géographie, finalement, ces choses-là, il y avait une sorte d'acculturation des géographes, de nos lecteurs à ça. Donc on en a enlevé pas mal. On a finalement réussi à enlever 100 de définitions, ce qui est quand même beaucoup, hein, dans l'absolu. Et du coup, on s'est dit, bon, on va avoir la place pour mettre des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, il faut évidemment qu'elles soient cohérentes par rapport à ce qu'on va garder, avec cette stabilité qui n'est pas cette fixité. La stabilité, c'est une stabilité dans l'économie relationnelle entre tous les termes, mais les termes eux-mêmes peuvent disparaître, apparaître. Et quand on en fait apparaître un, c'est l'ensemble de l'économie relationnelle qui évidemment bouge. Mais les liens restent cohérents, hein, et régis par des principes de cohérence. On pourrait donner de nombreux exemples. Par exemple, le fait que pour nous, ville et urbain, c'est pas la même chose. Voilà. Ça, c'est... Et d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur le fait que... Pourquoi c'est pas la même chose ? C'est-à-dire, moi, je n'utilise plus du tout le mot, ou presque pas. Jacques l'utilise plus.
Ville.
Ville, oui. Mais on sait que ville et urbain, c'est pas la même chose. Et ça, on est revenu là-dessus dans cette version pour peaufiner l'explication. Mais c'est resté stable, parce que remettre en cause ça, pour nous, ça aurait été quelque chose qui n'était pas pensable par rapport à ce qu'on avait travaillé depuis. Et donc, on a rajouté des mots qui nous paraissaient correspondre à un certain nombre d'enjeux du moment. Et ces enjeux du moment, il faut le dire, ils sont tous liés, peu ou prou, à ce qu'on appellerait tous les deux, même si on n'a pas forcément la même définition du mot, la mondialisation, et en particulier la mondialisation urbaine. Cette mondialisation... étant couplé à quelque chose que l'on pourrait appeler la redécouverte par les sociétés mondiales du fait que les non-humains comptent dans la composition et la constitution des espaces sociaux, c'est-à-dire par une redécouverte de ce que certains appelleraient la nature, mais une nature que nous ne pensons pas à l'ancienne, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous est extérieur, mais une nature que nous pensons plutôt comme une sorte d'artefact produit par les sociétés humaines. C'est-à-dire un rapport au non-humain défini par les sociétés humaines. C'est-à-dire nous ne sommes pas de ceux qui pensent que la nature est une entité extérieure à l'homme, qu'il faudrait respecter et révérer au nom de ne sais quel principe. Le naturel, c'est quelque chose qui est inventé par les sociétés en fonction d'un certain nombre d'états du moment. Et nous avons un état de nature que nous inventons pour l'instant et qui est caractérisé par la préoccupation du changement global, l'irruption d'un certain nombre de nouvelles problématiques. Donc voilà, ça c'était des choses qui nous intéressaient. D'où, par exemple, l'article vulnérabilité, mais aussi dans une certaine mesure l'article vitesse. Donc l'article vulnérabilité, c'est une manière pour nous d'essayer de poser sur la table le principe qu'en fait, et Jacques pourrait ensuite parler de la question du risque, puisqu'il a écrit l'article sur les risques, qu'une des choses qu'on sous-estime dans le moment contemporain dans lequel nous sommes, c'est qu'en fait, la vulnérabilité n'est pas un écueil qu'il faudrait éviter dans notre navigation de société, mais la vulnérabilité est une condition intrinsèque de toute habitation humaine. C'est-à-dire en fait que l'habitation humaine a toujours été vulnérable. Et donc, admettre que cette vulnérabilité a toujours existé ruine immédiatement les prétentions de tous ceux qui vous disent l'avenir des sociétés est de trouver les chemins pour que l'habitation humaine soit non vulnérable ou moins vulnérable. Parce que tout ça est un leurre, ça ne fonctionnera jamais. Et on a beaucoup travaillé avec les archéologues et les historiens pour ça, qui nous disent exactement cela. Ça veut dire que, et les technologues qui, face aux enjeux, vous disent « pas de problème, dormez tranquille, nous allons vous inventer les solutions qui vont permettre de nous rendre invulnérables, insensibles aux risques, nous allons tout maîtriser », et cela se trompe. Mais et ceux qui disent « la seule voie pour devenir moins vulnérable, c'est la décroissance, l'hyperlocalisme, etc. », cela aussi se trompe parce qu'ils se trompent sur le diagnostic de la question de la vulnérabilité. Donc, cette question de la vulnérabilité nous paraît importante parce qu'elle débouche évidemment sur des préoccupations qui sont des préoccupations scientifiques, mais elle débouche aussi sur des préoccupations politiques ou sur des préoccupations éthiques. Parce que dans ce dictionnaire, il y a une chose que nous n'avons peut-être pas dit, compte tenu du style de géographie que nous pratiquons, la problématique politique et la problématique éthique sont toujours présentes. Moi, je caractérise la géographie comme l'anthropologie politique des espaces habités. C'est-à-dire que pour moi, la question politique, elle est toujours centrale. On ne fait pas ça simplement pour le plaisir du sport en chambre. C'est qu'on pense que appréhender les sociétés à partir des espaces de vie, c'est aussi une des manières de poser clairement les enjeux politiques que toute société a à se poser. Donc, pour nous, la vulnérabilité, c'est une manière aussi d'adresser un certain nombre de questions aux lecteurs et peut-être aux décideurs sur un certain nombre de points politiques renvoyant à cette question: comment, finalement, peut-on, dans une société, accepter la vulnérabilité et la réguler? Donc, en fait, sortir... Enfin, ça, c'est mon choix personnel. Sortir très radicalement d'une politique de gestion des risques classique. Pour ce qui est de la vitesse, là, c'est un peu sur le versant importance de la mondialisation urbaine. Il nous a semblé... Alors, ce n'est pas un article vitesse. C'est un article vitesse, entre parenthèses, espace et. Donc, en fait, c'est un article très critique, qui est un article qui n'existait pas en 2003, parce que j'avais pas eu le temps de faire le travail, et ça, ces deux articles sortent du travail que j'ai mis en place dans mon dernier bouquin, comme les articles qu'écrit Jacques sont sur des articles qui ont été expérimentés dans ses livres précédents. C'est un article de prise de position contre les théories dromologiques, comme on dit, c'est-à-dire contre toutes les théories qui pensent que la vitesse supprime l'importance de l'espace humain. En particulier les théories à la Paul Virilio, Armut Rosa, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est un article qui montre que ces penseurs n'ont rien compris à la question spatiale, en particulier Paul Virilio, pourtant grand architecte devant l'éternel, excuse-moi Francine, enfin, il était architecte au départ, avec Claude Parent. Oui, enfin, bon, bref. Que la plupart de ces penseurs qui disent « la vitesse escamote l'espace », en fait, confondent espace et étendue. C'est-à-dire, en gros... Si vous dites que plus les sociétés vont vite, moins l'espace a de l'importance, ça veut dire que vous considérez que l'espace, c'est simplement une distance euclidienne à parcourir. C'est-à-dire vous confondez l'espace social et l'étendue euclidienne. Sauf que ce que les anthropologues savent et ce que les géographes savent, c'est que la question spatiale ne se résume pas à la question de l'étendue et à la question du parcours de la distance euclidienne. Parce que, autrement, il n'y aurait pas de question spatiale, par exemple, dans la préoccupation qu'a un individu d'occuper son logis, ou la préoccupation qu'a un individu de s'établir dans un lieu donné et de jouir de ce lieu, ou des préoccupations que les individus peuvent avoir de la définition des bons rapports de distance qui existent entre des réalités qui, même si elles sont joignables à toute vitesse, n'en restent pas moins distantes. Croire, par exemple, que les réseaux sociaux aliène la question de l'espace, ça n'est pas regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et c'est méconnaître que, tout simplement, il faut admettre que la régulation de la distance a changé, mais que l'existence de la distance entre des points, fussent des points connectés par des réseaux topologiques, cette existence de la distance n'a pas été supprimée. Elle a été modulée. Donc vous voyez, l'article vitesse, c'est un article qui ne nie pas les processus d'accélération, qui sont des processus très intéressants à étudier, mais qui critiquent un certain aveuglement d'un certain nombre de théories sociales qui ne comprennent pas, en fait, l'importance de l'espace et de la spatialité dans la vie humaine. C'est-à-dire qui font simplement de l'espace une surface à parcourir, alors que, bien sûr, ça peut être ça, mais dans bien d'autres occasions, c'est bien plus que cela.
Jacques,
oui, peut-être quelques remarques sur... dans le sillage. D'abord, c'est vrai que les articles de ce dictionnaire, enfin, notamment ceux qui étaient déjà là dans la première édition, ils essayaient de créer un vocabulaire qui permettait de traiter l'ensemble des questions possibles comme une combinatoire. Hein. Donc, il y avait un côté... vous savez, comme on décrit souvent le territoire américain avec le grid, hein, donc on fait d'abord un découpage, c'est pas grave si c'est vide, on fait des routes ou des tracés de routes, et puis après on remplit. Et on a fait un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'oulipo dans notre... c'est un ouvroir des spatialités possibles. Et donc c'est vrai que c'était intéressant de voir si ça... ça marchait ou pas, c'est-à-dire si on voyait des gros objets se profiler qui n'entraient pas dans notre ouvroir, ça aurait été très embêtant. Alors globalement, c'est quand même, enfin, on s'en rend pas tellement compte dans le quotidien, mais c'est vrai que on peut être assez content de ce point de vue-là. C'est-à-dire, enfin, on n'a pas vu de catastrophe finalement théorique se produire. Mais je disais ça parce que dans l'histoire, ce que vient de dire Michel à propos du fait que l'espace existe même quand les lieux sont reliés à très grande vitesse, ça lui a donné envie de créer la notion d'hyperspatialité qui se trouvait être aussi approché par un de nos collègues et amis qui s'appelle Boris Baud, avec la notion de synchorie. Boris Baud travaille sur l'Internet, et donc il se demande justement comment change l'espace quand il y a une ubiquité à travers la possibilité donc de communiquer dans le monde entier immédiatement. Et donc en fait... Alors, on peut dire que la synchorie est un moyen de l'hyperspatialité, mais cette innovation ajoute, en fait, en tout cas, on peut le voir comme ça, une quatrième interspatialité. Vous savez, les physiciens aiment bien dire qu'il y a cinq forces ou choses comme ça. Alors, nous, peut-être qu'on se prend un peu pour plus qu'on est, hein, mais... Mais on avait identifié trois manières pour des espaces d'entrer en interaction. Donc il y avait la juxtaposition qu'on appelait l'interface. Il y avait l'emboîtement, hein, le petit inclus dans le grand. Et puis on était quand même assez fiers d'avoir mis l'accent sur ce qu'on appelle la co-spatialité, hein, c'est-à-dire sur le fait que l'espace, il est multicouche. C'était quelque chose que la géographie classique ne pouvait pas voir, parce qu'en fait, elle imaginait qu'il y avait la couche de base qui était un absolu. Donc on ne pouvait pas la comparer aux choses qui étaient par-dessus, hein. Notamment, on aboutissait toujours à l'idée qu'il y avait d'abord le territoire et ensuite les réseaux. On ne pouvait pas imaginer que le réseau pouvait être premier, ce qui est en fait le cas. Mais donc on était assez fiers de notre troisième interspatialité, et je pense que ça marche bien. Mais là, il y a la question d'une quatrième. Est-ce que c'est pas du même ordre de grandeur ? On n'a pas tranché d'ailleurs dans le dictionnaire. Je crois que c'est venu après.
Voyez, oui. Interface, les frontières, quoi, ouais. Hein, classique, Emboîtement, bah, vous avez tous les emboîtements de territoire administratif, mais tous les emboîtements, y compris celui des poupées gigognes, voilà. des pièces qui s'emboîtent dans un ensemble plus vaste. Genre, c'est très important dans l'architecture hein, que cette théorie de l'emboîtement. Et, donc, co-spatialité, c'était le recoupement en un même point d'espace d'ordre de grandeur et de logique différente. Donc, c'est quand des réseaux recoupent des lieux, par exemple. Chose qui était impensable il y a peu de temps, puisqu'il fallait que les espaces soient des espaces continus, soit des espaces de flux. Mais qu'est-ce qu'on faisait du recoupement entre les deux? Et donc, voilà, l'aéroport, le nœud de réseau, le nœud de transport, la grande gare. C'est des espaces de co-spatialité. Et d'ailleurs, quand on est dedans, on est maintenant, beaucoup plus qu'il y a 15 ans, dans les aéroports, on est virtuose dans l'utilisation de ça. Je reviens il y a peu de temps d'un jury de thèse dirigé par une collègue de Paris qui s'appelle Nadine Catan sur la co-spatialité dans les grands aéroports. Voilà quelqu'un qui a... un jeune qui s'est approprié le concept de co-spatialité pour travailler les 5 plus gros hubs européens, comme ça, pour montrer comment, finalement, les passagers étaient devenus des virtuoses dans la gestion des co-spatialités et des commutateurs, ce qu'on appelle les commutateurs urbains. Et ça donne des résultats tout à fait étonnants. Hyperspatialité, ça a été démarqué de l'intuition de quelqu'un qui a écrit dans le dictionnaire en 2003, qui malheureusement est mort depuis, mais dont on a gardé les textes, on a fait une notice sur lui, puisque les penseurs de l'espace sont des personnes décédées. Donc c'est François Hacher qui avait eu l'intuition que les sociétés étaient peut-être en train de devenir hyper modernes, disait-il, un peu, disait-il, sur le mode de l'hypertexte. Hein. C'était au début des années 2000. Au début des années 2000, c'était déjà assez fort de repérer l'apparition de ça. Et donc, on a repris, j'ai systématisé ça pour dire, mais finalement, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'hyperspatialité, c'est-à-dire la capacité de se connecter topologiquement en tout point à tout point, qui constitue une nouvelle modalité et qui peut, en tout cas à titre d'hypothèse, nous permettre de dire que voilà un des effets patents de l'irruption bouleversante des moyens télécommunicationnels portatifs contemporains dans nos vies de tous les jours. C'est-à-dire, voilà un des effets du fait que le smartphone, les tablettes, la mise en place des réseaux hyper puissants de télécommunications partout, aboutissant même à des sociétés de surveillance d'un genre assez inédit, voilà un concept qui permet peut-être de penser ce qui est en train de se passer, mais qui ne supprime pas le reste.
Mais dans un contexte où, justement, contrairement à ce qu'auraient pu dire des Virilio ou William Mitchell avec son City of Bits, hein, donc l'idée qu'il n'y a plus de lieux, en fait. Les lieux, ils sont encore plus forts.
Il y a des hyper-lieux.
Parce que justement, l'urbanisation et l'Internet ont cru en même temps. Donc ça prouve que ce n'est pas par suppression que l'ubiquité permise par la télécommunication, elle ne tue pas les lieux, elle crée un nouveau type de réalité qui intègre les deux. Donc je disais ça parce que, donc vous voyez là en fait, on était à la fois dans la confirmation de ces trois interspatialités, mais on en ajoute peut-être une autre. Et je trouve que, enfin, ce que j'aime bien avec Michel Lusseau, bon, qui a beaucoup de défauts par ailleurs, mais ce qui est quand même assez jouissif, je dirais, dans notre couple, qui est, je le dis pour Closer, qui est purement intellectuel. Hein. En tout cas, on ira tout autre type d'application et on demandera des dommages et intérêts importants si on prétend le contraire. Non, c'est le fait. Je découvre dans cette relation intellectuelle la force du bon niveau d'altérité, en fait, qui n'est pas facile à trouver. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on discute avec ses collègues, ce qui est bien, c'est évidemment qu'ils ne soient pas comme nous, parce que sinon, c'est une espèce de... Bon, c'est mortifère hein, de se parler seulement à soi-même, de ne pas être dérangé par l'autre. Et en même temps, si on est trop loin, bon, c'est trop compliqué, il faut essayer de revenir aux bifurcations, de chercher le moment à partir duquel on n'est pas d'accord. C'est intéressant aussi, mais c'est relativement moins productif. Et je trouve que ce qui est intéressant avec, enfin, entre nous deux, c'est qu'il y a un niveau d'altérité, je trouve, assez optimal. Et donc, je conclue sur, sur un couple, justement, de notions qu'on a travaillé, chacun étant un peu porteur de l'un des éléments du couple. Enfin, en tout cas, c'est Michel Lussault a présenté les choses comme ça pour que ça soit à son avantage. C'est espace et spatialité. Il m'avait dit, pour être un peu insultant, toi, tu t'occupes d'espace, mais moi, je m'occupe de spatialité. Et en fait, ça m'a assez énervé, parce que spatialité, c'est mieux, c'est plus réflexif, c'est plus au deuxième degré. Hein.
L'espace, c'est l'environnement matériel, la voilà. Spatialité, c'est le faire avec l'environnement
c'est
matériel.
C'est ça, et donc il m'a rejeté dans un monde industriel décadent et poussiéreux, une espèce de Rust Belt.
On sent quand même des tensions dans le coup.
Voilà, et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a fabriqué, parce qu'en fait, on était... là tout à fait d'accord sur ce qu'il y avait dans chacun des termes, simplement il fallait quand même penser à le penser comme couple de notions, et là effectivement c'est le mérite de Michel de l'avoir fait, parce que du coup ça nous a obligés à penser, quand on dit de l'espace des sociétés, en réalité ce qu'on voudrait dire c'est de la géographicité, puisqu'il y a à la fois espace et spatialité, c'est-à-dire l'espace comme environnement et la spatialité comme ensemble d'actions. Donc, penser une société d'acteurs, justement, ça se traduit par, logiquement, par espace et spatialité. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que ça nous a aidé. Alors là, c'était plutôt moi qui, je crois, qui était le cristallisateur, avec l'idée qu'on pouvait proposer à l'ensemble des sciences sociales une triade qui serait acteur, objet, environnement. Donc Michel a parlé des non-humains, enfin il y a eu tout un travail, toute une émergence avec des gens comme Bruno Latour et d'autres sur, qui nous ont sensibilisés à la force active des objets, de ce qui n'est pas les humains, les objets naturels en étant un aspect. Les acteurs, bon, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup germé dans les sciences sociales depuis une vingtaine d'années, disons. Et c'est là que le couple espace-spatialité, moi, m'a aidé à faire émerger la notion d'environnement comme une notion assez générale, plus générale que celle de société. C'est-à-dire la société est un environnement et l'environnement des environnements, mais il y a des environnements qui ne sont que des morceaux de société, et notamment l'environnement naturel. Donc ça permet aussi de traiter la nature comme un cas particulier d'environnement, et l'espace aussi comme un cas particulier, ou les espaces comme un cas particulier d'environnement. Donc là, on a suivi le fil de notre dialogue pour, à partir d'une importation de notions qui étaient très générales aux sciences sociales, essayer de devenir exportateur, hein, en proposant aux sciences sociales... ces trois notions qui s'appliquent à bien d'autres choses qu'à l'espace, et pour le moment ça a l'air de marcher. Donc voilà, je trouve que on a de la chance, je trouve, de pouvoir fonctionner de cette façon. Je m'aperçois, bon, ça il peut y avoir d'autres configurations. J'ai beaucoup de plaisir, par exemple, à travailler dans un laboratoire Coros à l'EPFL, où là aussi on essaye d'avoir un niveau d'altérité productif, mais je pense que c'est ça qui n'est pas toujours effectif, hein, je dirais, dans les collectifs de recherche. Les fermetures disciplinaires sont très très mauvaises, évidemment, de ce point de vue-là, mais même à l'intérieur des disciplines, le risque, c'est qu'on reste poli avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qu'en fait, on n'échange jamais vraiment avec eux. Hein. Et c'est... Je trouve ce lien fragile qui existe encore dans la géographie française, où tout le monde plus ou moins se parle, qui n'existe pas du tout justement dans la géographie anglophone. J'étais professeur invité à UCLA pendant quelques mois, il y a quelques temps, et il y avait des gens qui étaient plutôt des postmodernes, plutôt des gens qui étaient dans les SIG, des systèmes d'information géographique. Ces gens-là étaient donc très polis les uns avec les autres, mais ils ne se parlaient jamais.
Espace-spatialité, on met aujourd'hui au défi quiconque de nous prouver que ce couple en tension n'est pas fondamental dans la vie humaine de tout individu au jour le jour. C'est-à-dire tout individu au jour le jour, dans le moindre de ses actes, à faire face à son environnement spatial et à poser des actes qui sont toujours des actes de spatialité. Et si on commence à observer ça, on est même surpris de la quantité d'énergie et d'inventivité colossale que les êtres humains ont à leur disposition pour régler ces problèmes-là. Et ça me permet de terminer sur un autre point, c'est que ce dictionnaire, comme tout notre travail d'ailleurs que nous faisons séparément, ce dictionnaire est très conceptuel, très théorique, mais tout s'appuie, il faut le dire, sur des recherches empiriques extrêmement serrées. C'est-à-dire, Jacques comme moi, comme tous les géographes qu'on a fait travailler, on a un rapport à l'empirique qui est extrêmement fort. C'est-à-dire, on pense que les sciences sociales sont des sciences empiriques aussi, c'est-à-dire qui s'appuient sur des observables. Et ce n'est pas un hasard si Jacques aujourd'hui fait des films et si le cinéma, comme mode possible d'observation et de narration du réel l'intéresse. Ça n'est pas pour rien que moi j'ai beaucoup investi dans la question de la description, y compris en réfléchissant au style possible de la description dans les sciences sociales, parce que pour nous tout part de l'observable. Tout part de ça. Quand on parlait des commutateurs, de l'hyperspatialité, on n'a pas fait ça comme ça. On a d'abord observé ce qui se passait dans des situations données.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.